Recoin de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures.
Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Nous lirons quelques extraits et nous commencerons au verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné dans le monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Verset 10 à la fin. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11. Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 13. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Alors, ces paroles sont des paroles exprimées par le Seigneur Jésus lui-même dans une prière qu'il adresse à son Père à propos de nous. Et il y a de nombreux aspects que nous pourrions en retirer qui sont touchants et encourageant pour notre cœur. En effet, il y a tellement de grâce et tellement d'amour. Il y a un amour débordant pour le Seigneur à l'égard de ses disciples et de tous ceux qui croient encore aujourd'hui par les paroles qui ont été transmises par les disciples. Alors, il y a plusieurs aspects, nous allons en voir seulement quelques-uns. Et il y a cette prière donc qui est faite au Père de la part du Seigneur Jésus qui nous concerne. Eh bien, c'est un aspect très touchant. Nous voyons un autre aspect touchant, c'est que l'apôtre Jean, si nous pensons qu'il est le dernier apôtre à survivre, et aussi qu'il est le dernier apôtre à écrire son enseignement à propos du Seigneur Jésus, eh bien, il nous enseigne à revenir aux choses qui sont dès le commencement, quelles que soient les circonstances. Lorsque l'apôtre Jean écrit, l'enseignement de l'apôtre Paul a déjà été donné concernant l'Assemblée, concernant toutes sortes de choses, tout le Nouveau Testament, on pourrait dire. Et nous savons que très vite, la ruine et beaucoup de choses se sont installées qui n'étaient pas selon la pensée du Seigneur. Les enseignements n'ont pas été suivis par tout le monde, et dans les assemblées notamment, de l'époque. Et l'apôtre Jean qui écrit, alors qu'il doit connaître tout ce déclin et tous ces problèmes, cette ruine qui s'installe déjà dans la chrétienté, eh bien, il nous enseigne principalement sur le Seigneur Jésus. Il parle de l'amour pour le Seigneur Jésus, celui qui ne change pas, le Seigneur Jésus, le roc séculaire, le fondement qui est établi. Il dit de revenir à ces choses-là et qu'il faut donc construire et vivre sur la base de notre amour pour le Seigneur Jésus. En Christ, il n'y a pas de faille. En Christ, tout est sûr. En Christ, tout est ferme. Quelles que soient les circonstances, eh bien, retournons aux choses qui sont dès le commencement, avec un amour et une ardeur pour le Seigneur, afin de faire ce qui lui plaît, afin de le glorifier, afin de garder sa parole, comme nous l'avons lu ici, et afin d'être de vrais ambassadeurs pour le Seigneur dans ce monde. Alors revenons à cette intercession du Seigneur pour ses disciples et pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur parle d'une sanctification. Il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il s'agit d'une sanctification morale. Une sanctification, ça veut dire une mise à part. Nous sommes différents. Une mise à part pour que nous restions propres et purs dans un monde corrompu, afin que nous soyons utiles. La sanctification a ce but d'être utile à Dieu, parce que Dieu ne peut utiliser dans ce monde, pour la gloire de son nom, que ce qui est saint, que ce qui maintient la sainteté du Seigneur Jésus. Et le moyen de maintenir cette sainteté et cette pureté, c'est bien la parole de Dieu. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et la parole de Dieu, eh bien, elle est pure. Nous l'appelons la Sainte Bible. Elle est sainte, elle est pure. Et elle a pour effet, lorsque nous la lisons, de purifier, de nettoyer nos pensées, de se débarrasser comme cette eau qui pourrait débarrasser les saletés qui se trouvent sur quelque chose, dans notre cœur par exemple. Eh bien, la parole de Dieu va nous imprégner et va nous rendre purs, va nous faire voir les choses avec clarté, comme Dieu les voit. Évidemment, par le Saint-Esprit qui nous est donné, car en dehors du Saint-Esprit, il n'est pas possible de comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit a été donné afin que nous voyions les gloires de Christ au travers des Écritures. Christ qui est la clé de la connaissance. Et l'Esprit de Dieu est appelé Saint, Saint-Esprit. De nouveau, nous trouvons cette pureté, cette sainteté, cette mise à part par rapport au monde qui nous sont données comme ressources. Le Seigneur demande au Père que nous soyons séparés, sanctifiés, et pour cela, nous avons reçu la parole de Dieu qui est sainte et le Saint-Esprit pour nous la faire comprendre et nous aider à la mettre en pratique. Alors, il y a des vertus à être séparé du monde. Quand on est jeune, on n'aime pas tellement cette pensée d'être séparé. Le mot séparation a des connotations négatives, mais en ce qui concerne Dieu et la séparation et la sanctification, c'est totalement positif. Il s'agit de se maintenir pur du monde, de ne pas être corrompu par le péché et par la pollution des pensées du monde. Alors, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous dit par exemple que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur est en mission à l'étranger, il n'est pas chez lui. Il ne partage pas les valeurs et les intérêts de l'endroit où il se trouve, mais de celui qu'il représente. Nous sommes également appelés citoyens du ciel. En Philippiens 3, verset 20, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus. Nous sommes donc citoyens du ciel. Quelle dignité, n'est-ce pas? C'est une dignité inouïe que le Seigneur et que Dieu nous présentent dans ce monde comme des ambassadeurs, des citoyens. Et cela devrait parler à notre cœur. Mais soyons très concrets. Soyons très concrets dans notre mission d'ambassadeur et de citoyen du ciel dans ce monde où nous ne faisons que passer. Eh bien, cela veut dire que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes étrangers, forains sur la terre. Et de manière très concrète, il y a beaucoup d'aspects qui s'y rattachent, mais j'aimerais que nous parlions ici, de la façon de penser. Nous ne nourrissons pas nos pensées comme les gens du monde le font. D'accord ? Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Colossiens 3, au verset 16, nous dit que la parole du Christ habite en vous richement. Richement, pas juste un peu. Nous avons le privilège de l'avoir, de la posséder entre les mains. Il faut qu'elle soit dans notre cœur également. Philippiens 4 nous dit, alors lisons ce passage de Philippiens 4 où il est question que nos pensées soient attachées et occupées des choses de Dieu, du Seigneur Jésus. Donc Philippiens 4, au verset 8, il est dit au reste frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. C'est magnifique, n'est-ce pas? Toutes ces choses, il est évident qu'elles sont en contraste avec ce qui se passe dans ce monde et ce que le monde veut nous donner comme nourriture spirituelle. Non, toutes ces choses nous parlent de Christ, celui que le monde a rejeté. Eh bien, il y a de la vertu, il y a de la louange à être occupé de ces choses. Et aussi, il faut les faire. Et si nous les occupons nos pensées de ces choses et que nous les faisons, alors, quelle belle promesse, le Dieu de paix sera avec vous. Alors, ce qui nous préoccupe donc, en tant qu'enfants de Dieu, dans ce monde, eh bien, ce ne sont pas les résultats d'une certaine équipe de foot ou l'autre. Ce ne sont pas les projets de vacances qui sont devenus incertains de toute façon, ou toute autre chose que nous prévoyons de faire dans le monde pour notre propre intérêt. Non, tout cela, ces préoccupations-là ne sont pas les premières. Nous devons non pas être préoccupés de ces choses-là, mais occupés du Seigneur Jésus lui-même. Occupés de ce qu'il est, de qui il est, et de ce qu'il désire nous communiquer. Parce que nous avons un Sauveur et un Seigneur qui désire nous enrichir. Il nous donne la vie, et la vie en abondance. Ça veut dire tous les aspects de la relation avec lui, de cette vie que nous avons avec lui. Eh bien, il veut nous enrichir de lui-même, afin que nous soyons richement bénis, que nous soyons joyeux, heureux, paisibles et spirituels, que nous soyons de véritables représentants de lui dans ce monde. Alors, la priorité, donc, notre priorité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que représentant du Seigneur dans le monde, comme il en parle, comme le Seigneur en parle dans Jean 17, ce ne sont pas les intérêts que nous puissions avoir personnels dans le monde, mais c'est ce que le Seigneur veut nous donner en abondance. Philippiens 3, verset 7, si nous tournons la page, nous dit, c'est l'expérience même de l'apôtre Paul qui dit « Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes choses et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. » Et que je sois trouvé en lui. Vous voyez, les choses du monde ne font que passer. Avec le temps qui passe, on s'en rend compte de plus en plus. Et ça devrait être une réalité, non pas seulement pour l'apôtre Paul, mais c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Que les choses du monde s'effacent et que nous ne voyons plus que le Seigneur seul dans nos cœurs. Qu'il est la prééminence, qu'il est la priorité. La première valeur, c'est notre Seigneur. Nous lisons ça, nous chantons ça parfois. Cantique 71, je vais le lire, juste un aparté. Seigneur, ta grâce illimitée, si pure, si douce pour moi, fait que mon âme est transportée chaque fois que je pense à toi. Oui, ton amour, toujours le même, sollicite mon faible cœur à jouir de l'éclat suprême de ces doux rayons de bonheur. Verset 4. Mon âme alors, pleine de zèle, saurait aimer plus ardemment, et connaissant mieux son modèle, prendrait tout son accroissement. Nous chantons ce cantique parfois. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vraiment nous pensons véritablement tout ce que nous chantons lorsque nous sommes à la réunion, par exemple? Ah, c'est sérieux. Il ne faudrait pas exprimer des choses pour avoir l'air spirituel alors que ce n'est pas une réalité dans notre cœur. Imaginez que cela n'est pas une réalité. Est-ce que j'oserais me taire au moment où tout le monde chante autour de moi et tout le monde verrait que je m'arrête de chanter cela parce que je suis en train de mentir? Demandons au Seigneur que que notre cœur soit toujours ardent et brûlant pour lui. Alors revenons aux aspects qui nous différencient du monde ou des gens du monde quant à nos pensées. Alors, les gens du monde, eux, lisent et se nourrissent de toutes sortes d'informations, de nouvelles, d'un amas d'informations discordantes et alarmantes. Mais quelle détresse, mes amis, quelle détresse! Mais quelle perspective peuvent-ils avoir? Aucune espérance. Rien de positif ne se profile à l'horizon pour eux. Mais pour nous, quelle différence, quel contraste! Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu et elle est la vérité, elle est stable, elle est sûre. Elle nous vient du Dieu qui est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui nous fait ses confidences, le Dieu qui nous révèle ce qu'il y a dans son cœur, le Dieu qui aime parler aux hommes qui lui sont fidèles comme à des amis. Et cette parole de Dieu, elle nous parle d'amour, de grâce, de consolation, de gloire à venir. Elle nous parle du Seigneur Jésus, de celui qui a aimé notre âme au point qu'il s'est donné en sacrifice sur la croix pour nous sauver. Quelle beauté, quelle espérance nous avons, celui qui vient bientôt nous rechercher. La parole nous dit cela. Elle nous dit que le Seigneur vient bientôt. Elle ne nous donne qu'une espérance vivante de quelque chose qui va arriver à coup sûr, aujourd'hui même peut-être. Un deuxième aspect qui nous différencie quant à nos pensées vis-à-vis des gens du monde, c'est que les gens du monde, sans Dieu, eh bien, ils sont dans l'angoisse, à la perspective de mourir. La mort, l'au-delà, ne les laisse pas tranquilles. Ils s'agitent, ils s'irritent, ça les empêche de dormir. Mais pour nous qui ne sommes pas du monde, eh bien, nous restons calmes. Nous obtenons du réconfort à la pensée de notre avenir éternel dans le ciel. L'au-delà pour nous ne signifie que gloire autour du Seigneur, autour de celui qui nous aime et que nous aimons par-dessus tout. En fin de compte, pour nous, la mort est une servante qui nous emmène là où tout est bien, dans la présence du Seigneur. Et la parole nous dit que nous ne mourrons pas, que nous nous endormons dans le Seigneur. Quelle beauté, quel réconfort. Nous devons penser à ces choses-là. Nous devons nourrir notre âme de toutes ces vérités que la parole de Dieu nous donne en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Un troisième aspect concernant les différences entre les gens du monde, sans Dieu, et nous, c'est que les gens du monde vivent dans la crainte constamment. Ils craignent pour leur avenir, ils craignent pour leur situation financière, ils craignent pour toutes sortes de choses qui constituent les seules choses qu'ils ont dans la vie, en sachant qu'elles vont arriver à un terme. Mais pour nous, nous vivons avec confiance dans le cœur, avec confiance. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons confiance en notre Père Céleste. Nous pouvons lui faire confiance à tous égards, à tout niveau, concernant toutes les questions de notre vie. Et nous sommes heureux. Je répète, nous sommes heureux de dépendre de Dieu. Nous sommes heureux de dépendre du Père Céleste. C'est une joie d'être dépendant. C'est une joie immense d'être dépendant d'un Dieu si bon, d'un Dieu de grâce, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu généreux, qui veut bénir autant que possible. Pensons aux exemples de l'apôtre Paul qui chantait des cantiques au milieu de la nuit, du fond de sa cellule en prison. Pensons à Pierre qui dort du sommeil du juste alors qu'il est en prison, alors qu'il doit passer le lendemain au tribunal. Quelle confiance, quel bonheur dans leur cœur, quelle joie, quelle paix ils ont obtenue de la part du Seigneur. En effet, Philippiens chapitre 4, si nous lisons le paragraphe qui précède celui que nous avons lu tout à l'heure, au verset 4, il nous est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !» Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous ! Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » La première épître de Pierre nous dit, au chapitre 5, de rejeter sur lui tout notre souci, car il a soin de nous. Lorsque nous rejetons, eh bien, ce n'est plus à nous de le porter, et le Seigneur a soin de nous. Et si nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, il nous est aussi dit de ne pas nous mettre en souci pour nos besoins et nos difficultés temporelles sur la terre, mais de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Aucune circonstance n'est imprévue devant Dieu. Tout ce qui arrive, les difficultés, les épreuves, les incertitudes que nous pouvons avoir dans ce monde, tout est prévu devant Dieu. Tout ce qui arrive dans ce monde ne prend pas Dieu au dépourvu, il ne perd pas le contrôle. Et avec ces circonstances, Dieu a prévu pour tous ceux qui s'attendent à lui et qui se nourrissent de lui et du Seigneur Jésus, eh bien, il a prévu les ressources qui vont avec. Alors, ne nous inquiétons pas outre mesure des besoins et des difficultés que nous pouvons traverser durant ce temps sur la terre qui nous reste. Et l'apôtre Paul nous donne un exemple très, très, très fort dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, où il décrit toutes les circonstances pénibles par lesquelles il est passé personnellement. Il a connu la lapidation, il a été fouetté, il a été en péril plusieurs fois, il a connu des naufrages, sa vie a été en danger de nombreuses fois. Mais ce qu'il nous dit à la fin de ce paragraphe, c'est que ce qui le tient assiégé principalement, c'est la sollicitude pour toutes les assemblées. Il ne regarde pas tellement à lui-même, mais ce qu'il regarde, c'est au témoignage du nom du Seigneur dans ce monde. C'est ça qui doit être maintenu. Il ne parle pas de maintenir son honneur personnel, de maintenir son confort personnel, de maintenir une retraite confortable, des vacances bien méritées. Non, ce n'est pas ça qui occupe les pensées de l'apôtre Paul, serviteur du Seigneur dans ce monde. C'est le témoignage collectif à la gloire du Seigneur. Et c'est quelque chose qui peut s'écrouler. C'est quelque chose qui peut s'écrouler. Et l'apôtre Paul dit au jeune Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul lui dit, alors que tout s'écroule autour de lui, lisons-le, deuxième épître à Timothée, de Timothée, chapitre 1. Alors, c'est le déclin, beaucoup de choses s'écroulent, même dans la chrétienté, et l'apôtre dit, chapitre 1er, verset 14, « Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. » Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint, pas par soi-même. Il ne faut pas essayer de garder ce que Dieu nous a confié par nous-mêmes, mais par l'Esprit Saint. Il faut toujours se laisser guider, et par notre premier amour, parce que l'Esprit Saint va toujours générer cet amour pour le Seigneur, pour lui obéir en toutes choses. Alors, c'est quoi un dépôt? C'est quoi un dépôt? Un dépôt, c'est quelque chose qui est confié par quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il dépose un bien à la responsabilité de quelqu'un d'autre. Nous sommes dépositaires de la parole de Dieu, qui est la vérité. C'est-à-dire qu'elle nous est confiée. Et elle ne nous appartient pas. Avec le dépôt, il n'y a pas de transfert de propriété. Elle appartient toujours à Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et ce n'est pas à nous à décider qu'elle va changer ou être modifiée ou adaptée ou ajustée. Elle est comme elle est. Elle représente Dieu lui-même et le Seigneur. Alors c'est ça le dépôt que nous avons reçu, la parole de Dieu. Mais garder, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire garder dans un tiroir ou dans sa mémoire. Ça veut dire mettre en pratique, appliquer de manière inconditionnelle, obéir à ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Et pour conclusion, J'aimerais lire un passage dans l'Apocalypse qui est touchant également lorsque le Seigneur s'adresse au chapitre 3 et au verset 7. Les paroles du Seigneur s'adressent à l'ange, donc, et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie. Verset 8. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.